Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble pour une soirée autour du roman de Émile Zola, La débâcle. Et nous sommes au moment de la Commune. Puis à droite, c'était d'abord le palais de la Légion d'honneur, incendié à 5 heures du soir, qui brûlait depuis près de 7 heures et qui se consumait en une large flambée de bûchers dont tout le bois s'achèverait d'un coup. Ensuite, c'était le palais du Conseil d'État. L'incendie immense, le plus énorme, le plus effroyable, le cube de pierre géant aux 2 étages de portique vomissant des flammes. Les 4 bâtiments qui entouraient la grande cour intérieure avaient pris feu à la fois, et là, le pétrole, versé à pleine tonne dans les 4 escaliers aux 4 angles, avait ruisselé, roulant le long des marches des torrents de l'enfer. Sur la façade du bord de l'eau, la ligne nette de l'attique se détachait en une rampe noircie au milieu des langues rouges qui en léchaient les bords. Tandis que les colonnades, les entablements, les frises, les sculptures apparaissaient avec une puissance de relief extraordinaire dans un aveuglement reflet de fournaise. Il y avait surtout là un branle, une force du feu si terrible que le colossal monument en était comme soulevé, tremblant et grondant sur ses fondations, ne gardant que la carcasse de ses murs épais sous cette violence d'éruption qui projetait au ciel le zinc de ses toitures. Ensuite, c'était à côté la caserne d'Orsay, dont tout un pan brûlait en une colonne haute et blanche, pareille à une tour de lumière. Et c'était enfin derrière d'autres incendies encore, les 7 maisons de la rue du Bac, les 22 maisons de la rue de Lille, embrasant l'horizon, détachant les flammes sur d'autres flammes en une mer sanglante et sans fin. Jean, étranglé, murmura « C'est pas Dieu possible, la rivière va prendre feu ». La barque, en effet, semblait portée par un fleuve de braise. Sous les reflets dansants de ces foyers immenses, on aurait cru que la Seine roulait des charbons ardents. De brusques éclairs rouges y couraient dans un grand froissement de tisons jaunes. Et ils descendaient toujours lentement, au fil de cette eau incendiée, entre les palais en flammes, ainsi que dans une rue démesurée de villes maudites, brûlant aux 2 bords d'une chaussée de lave en fusion. « Ah !» dit à son tour Maurice, repris de folie devant cette destruction qu'il avait voulu, « que tout flambe donc et que tout saute !» Mais d'un geste terrifié, Jean le fit taire comme s'il avait craint qu'un blasphème ne leur portât malheur. Était-ce possible qu'un garçon qu'il aimait tant, si instruit, si délicat, en fût arrivé à des idées pareilles ? Et il ramait plus fort car il avait dépassé le pont de Solferino. Il se trouvait maintenant dans un large espace découvert. La clarté devenait telle que la rivière était éclairée comme par le soleil de midi, tombant d'aplomb, sans une ombre. On distinguait les moindres détails avec une précision singulière. Les moires du courant, les tas de gravier des berges, les petits arbres des quais. Surtout, les ponts apparaissaient d'une blancheur éclatante, si nette qu'on en aurait compté les pierres. Et l'on aurait dit d'un incendie à l'autre de minces passerelles intactes au-dessus de cette eau brasillante. Par moments, au milieu de la clameur grondeuse et continue, de brusques craquements se faisaient entendre. Des rafales de suie tombaient. Le vent apportait des odeurs empestées. Et l'épouvantement, c'était que Paris, les autres quartiers lointains, là-bas, au fond de la trouée de la Seine, n'existaient plus. À droite, à gauche, la violence des incendies éblouissait, creusait au-delà un abîme noir. On ne voyait plus qu'une énormité ténébreuse, un néant, comme si Paris tout entier, gagné par le feu, fût dévoré, eût déjà disparu dans une éternelle nuit. Et le ciel aussi était mort. Les flammes montaient si haut qu'elles éteignaient les étoiles. Maurice, que le délire de la fièvre soulevait, eut un rire de fou. « Une belle fête au Conseil d'État et aux Tuileries. On a illuminé les façades, les lustres étincelles, les femmes dansent. Ah, dansez, dansez donc, dans vos cotillons qui fument avec vos chignons qui flamboient. » De son bras valide, il évoquait les galas de Gomorre et de Sodome, les musiques, les fleurs, les jouissances monstrueuses, les palais crevant de telles débauches, éclairant l'abomination des nudités d'un tel luxe de bougies qu'ils s'étaient incendiés eux-mêmes. Soudain, il y eut un fracas épouvantable. C'était aux Tuileries le feu venu des deux bouts qui atteignait la salle des maréchaux. Les tonneaux de poudre s'enflammaient, le pavillon de l'horloge sautait avec une violence de poudrière. Une gerbe immense monta, un panache qui emplit le ciel noir, le bouquet flamboyant de l'effroyable fête. « Bravo la danse !» cria Maurice, comme à une fin de spectacle, lorsque tout retombe aux ténèbres. Jean, bégayant, le supplia de nouveau en phrase éperdue. « Non, non, il ne fallait point vouloir le mal. Si c'était la destruction de tout, eux-mêmes allaient donc périr ?» Et il n'avait plus qu'une hâte à border, échapper au terrible spectacle. Pourtant, il eut la prudence de dépasser encore le pont de la Concorde, de façon à ne débarquer que sur la berge du quai de la Conférence. Après le coude de la Seine. Et à ce moment critique, au lieu de laisser aller le canot, il perdit quelques minutes à la marée solidement, dans son respect instinctif du bien des autres. Son plan était de gagner la rue des Orties par la place de la Concorde et la rue Saint-Honoré. Après avoir fait asseoir Maurice sur la berge, il monta seul l'escalier du quai. Il fut repris d'inquiétude en comprenant quelle peine ils auraient à franchir les obstacles entassés là. C'était l'imprenable forteresse de la Commune, la terrasse des Tuileries armée de canons, les rues royales, Saint-Florentin et de Rivoli barrées par de hautes barricades solidement construites. Et cela expliquait la tactique de l'armée de Versailles, dont les lignes cette nuit-là formaient un immense angle rentrant. Le sommet à la place de la Concorde, les deux extrémités, l'une sur la rive droite à la gare de marchandises de la Compagnie du Nord, l'autre sur la rive gauche à un bastion des remparts près de la porte d'Arcueil. Mais le jour allait naître. Les communards avaient évacué les Tuileries et les barricades. La troupe venait de s'emparer du quartier. Au milieu d'autres incendies, 12 autres maisons qui brûlaient depuis 9 heures du soir au carrefour de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale. En bas, lorsque Jean fut redescendu sur la berge, il trouva Maurice somnolent, comme hébété après sa crise de surexcitation. « Ça va pas être facile. Au moins, pourras-tu marcher encore, mon petit ?»« Oui, oui, ne t'inquiète pas. J'arriverai toujours, mort ou vivant. » Mais il eut surtout de la peine à monter l'escalier de pierre. Puis, en haut, sur le quai, il marcha lentement au bras de son compagnon d'un pas de somnambule. Bien que le jour ne se levât pas encore, le reflet des incendies voisins éclairait la vaste place d'une aube livide. Ils en traversèrent la solitude, le cœur serré de cette morne dévastation. Au debout, de l'autre côté du pont et à l'extrémité de la rue royale, on distinguait confusément les fantômes du palais Bourbon et de la Madeleine, labourés par la canonnade. La terrasse des Tuileries, battue en brèche, s'était en partie écroulée. Sur la place même, des balles avaient troué le bronze des fontaines. Le tronc géant de la statue de Lille gisait par terre, coupé en deux par un obus. Tandis que la statue de Strasbourg, à côté, voilée de crêpes, semblait porter le deuil de tant de ruines. Et il y avait là, près de l'obélisque intact, dans une tranchée, un tuyau à gaz fendu par quelques coups de pioche qu'un hasard avait allumé et qui lâchait avec un bruit strident un long jet de flamme. Jean évita la barricade qui fermait la rue royale, entre le ministère de la Marine et le garde-meuble sauvé du feu. Il entendait derrière les sacs et les tonneaux de terre dont elle était faite de grosses voix de soldats. En avant, un fossé la défendait, plein d'eau croupie, où nageait un cadavre de fédéré. Et par une brèche, on apercevait les maisons du carrefour Saint-Honoré, qui achevaient de brûler, malgré les pompes venues de la banlieue dont on distinguait le ronflement. À droite et à gauche, les petits arbres, les kiosques des marchands de journaux étaient brisés, criblés de mitraille. De grands cris s'élevaient, les pompiers venaient de découvrir dans une cave 7 locataires d'une des maisons à moitié carbonisées. Bien que la barricade barrant la rue Saint-Florentin et la rue de Rivoli parût plus formidable encore avec ses hautes constructions savantes, Jean avait eu l'instinct d'y sentir le passage moins dangereux. Elle était en effet complètement évacuée, sans que la troupe eût encore osé l'occuper. Des canons y dormaient, dans un lourd abandon. Pas une âme derrière cet invincible rempart. Rien qu'un chien errant qui se sauva. Mais comme Jean se hâtait dans la rue Saint-Florentin, soutenant Maurice affaibli, ce qu'il craignait arriva. Ils se heurtèrent contre toute une compagnie du 88e de ligne qui avait tourné la barricade. « Mon capitaine ! Expliqua-t-il, c'est un camarade que ces brigands viennent de blesser et que je conduis à l'ambulance. » La capote jetée sur les épaules de Maurice le sauva, et le cœur de Jean sautait à se rompre pendant qu'ils descendaient enfin ensemble la rue Saint-Honoré.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareil, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
La débâcle de Émile Zola, suite. Le jour pointait à peine. Des coups de feu partaient des rues transversales car on se battait encore dans tout le quartier. Ce fut un miracle s'ils purent atteindre la rue des Frondeurs sans faire d'autres mauvaises rencontres. Ils n'allaient plus que très lentement. Ces 300 ou 400 mètres à parcourir semblèrent interminables. Puis, rue des Frondeurs, ils tombèrent dans un poste de communards. Mais ceux-ci, effrayés, croyant à l'arrivée de tout un régiment, prirent la fuite. Et il ne restait qu'un bout de la rue d'Argenteuil à suivre pour être rue des Orties. Ah ! Cette rue des Orties, avec quelle fièvre d'impatience Jean la souhaitait depuis 4 grandes heures. Lorsqu'ils y entrèrent, ce fut une délivrance, elle était noire, déserte, silencieuse, comme à 100 lieues de la bataille. La maison, une vieille et étroite maison sans concierge, dormait d'un sommeil de mort. J'ai les clés dans ma poche, bégaya Maurice. La grande est celle de la rue, la petite, celle de ma chambre, tout en haut. Et il succomba. Il s'évanouit entre les bras de Jean, dont l'inquiétude et l'embarras furent extrêmes. Il en oublia de refermer la porte de la rue et dut le monter à tâtons dans cet escalier inconnu, en évitant les chocs, de peur d'amener du monde. Puis en haut, il se perdit. Il lui fallut poser le blessé sur une marche et chercher la porte à l'aide d'allumettes qu'il avait heureusement. Et ce fut seulement lorsqu'il l'eut trouvée qu'il redescendit le prendre. Enfin, il le coucha sur le petit lit de fer en face de la fenêtre dominant Paris, qu'il ouvrit toute large dans un besoin de grand air et de lumière. Le jour naissait. Il tomba devant le lit, sanglotant, assommé et sans force, sous le réveil de cette affreuse pensée qu'il avait tué son ami. Des minutes durent s'écouler. Il fut à peine surpris en apercevant soudain Henriette. Rien n'était plus naturel. Son frère était mourant, elle arrivait. Il ne l'avait même pas vue entrer, peut-être se trouvait-elle là depuis des heures. Maintenant, affaissé sur une chaise, il la regardait stupidement s'agiter sous le coup de mortelle douleur qui l'avait frappé à la vue de son frère sans connaissance, couvert de sang. Il finit par avoir un souvenir et il demanda « Dites donc, vous avez refermé la porte de la rue ?» Bouleversée, elle répondit affirmativement d'un signe de tête. Et comme elle venait enfin de lui donner ses deux mains dans un besoin d'affection et de secours, il reprit, « Vous savez, c'est moi qui l'ai tué. » Elle ne comprenait pas. Elle ne le croyait pas. Il sentait les deux petites mains rester calmes dans les siennes. C'est moi qui l'ai tué, oui, là-bas, sur une barricade. Il se battait d'un côté et moi de l'autre. » Les petites mains se mirent à trembler. On était comme des hommes sous, on ne savait plus ce qu'on faisait. C'est moi qui l'ai tué. Alors Henriette retira ses mains, frissonnantes, toutes blanches, avec des yeux de terreur qui le regardaient fixement. C'était donc la fin de tout. Et rien n'allait donc survivre dans son cœur broyé. Ah, ce Jean, à qui elle pensait le soir même, heureuse du vague espoir de le revoir peut-être. Et il avait fait cette chose abominable. Et il venait pourtant de sauver encore Maurice, puisque c'était lui qui l'avait rapporté là, au travers de tant de dangers. Elle ne pouvait plus lui abandonner ses mains sans un recul de tout son être, mais elle eut un cri où elle mit la dernière espérance de son cœur combattu. « Oh, je le guérirai! Il faut que je le guérisse maintenant !» Pendant ses longues veillées à l'ambulance de Rémilly, elle était devenue très experte à soigner et à panser les blessures, et elle voulut tout de suite examiner celle de son frère, qu'elle déshabilla sans le tirer de son évanouissement. Mais quand elle défit le pansement sommaire imaginé par Jean, il s'agita. Il eut un faible cri en ouvrant de grands yeux de fièvre. Tout de suite d'ailleurs, il la reconnut, il sourit. « Tu es donc là ?» « Ah, je suis content de te voir avant de mourir. » Elle le fit taire d'un beau geste de confiance. « Mourir ? Mais je ne veux pas. Je veux que tu vives. Ne parle plus, laisse-moi faire. » Cependant, lorsque Henriette eut examiné le bras, traversé, les côtes atteintes, elle s'assombrit. Ses yeux se troublèrent. Vivement, elle prenait possession de la chambre, parvenait à trouver un peu d'huile déchirée de vieilles chemises pour en faire des bandes, tandis que Jean descendait chercher une cruche d'eau. Il n'ouvrait plus la bouche. Il la regarda, lavait les blessures, les pansait adroitement, incapable de l'aider, anéantie depuis qu'elle était là. Quand elle eut fini, voyant son inquiétude, il offrit pourtant de se mettre en quête d'un médecin. Mais elle avait toute son intelligence nette. Non, non, pas le premier médecin venu, qui livrerait peut-être son frère. Il fallait un homme sûr. On pouvait attendre quelques heures. Enfin, comme Jean parlait de s'en aller pour rejoindre son régiment, il fut entendu que dès qu'il lui serait possible de s'échapper, il reviendrait, en tâchant de ramener un chirurgien avec lui. Il ne partit pas encore. Il semblait ne pouvoir se résoudre à quitter cette chambre toute pleine du malheur qu'il avait fait. Après avoir été refermée un instant, la fenêtre venait d'être ouverte de nouveau. Et de son lit, la tête haute, le blessé regardait, tandis que les deux autres avaient eux aussi les regards perdus au loin, dans le lourd silence qui avait fini par les accabler. De cette hauteur, de la butte des moulins, toute une grande moitié de Paris s'étendait sous eux. D'abord les quartiers du centre, du faubourg Saint-Honoré jusqu'à la Bastille, puis le cours entier de la Seine avec le pullulement lointain de la rive gauche, une mer de toitures, des cimes d'arbres, de clochers, de dômes et de tours. Le jour grandissait. L'abominable nuit, une des plus affreuses de l'histoire, était finie. Mais dans la pure clarté du soleil levant, sous le ciel rose, les incendies continuaient. En face, on apercevait les Tuileries qui brûlaient toujours, la caserne d'Orsay, les palais du Conseil d'État et de la Légion d'honneur, dont les flammes pâlies par la pleine lumière donnaient au ciel un grand frisson. Même au-delà des maisons de la rue de Lille et de la rue du Bac, d'autres maisons devaient flamber, car ces colonnes de flammèches montaient du carrefour de la Croix-Rouge et plus loin encore de la rue Vavin et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Sur la droite, tout près, s'achevaient des incendies, ceux de la rue Saint-Honoré, tandis que sur la gauche, au Palais-Royal et au Nouveau-Louvre, avortaient des feux tardifs mis vers le matin. Mais surtout, ce qu'ils ne s'expliquèrent pas d'abord, c'était une grosse fumée noire que le vent d'ouest poussait jusque sous la fenêtre. Depuis 3 heures du matin, le ministère des Finances brûlait, sans flamme haute, se consumait en épais tourbillons de suie, tellement le prodigieux amas de paperasse s'étouffait sous les plafonds bas dans ses constructions de plâtre. Et s'il n'y avait plus là, au-dessus du réveil de la grande ville, l'impression tragique de la nuit, l'épouvante d'une destruction totale, la Seine roulant des braises, Paris allumé aux quatre bouts, une tristesse désespérée et morne passait sur les quartiers épargnés, avec cette épaisse fumée continue dont le nuage s'élargissait toujours. Bientôt le soleil qui s'était levé limpide en fut caché. Et il ne resta que ce deuil dans le ciel fauve. Maurice, que le délire devait reprendre, murmura avec un geste lent qui embrassait l'horizon sans borne. « Est-ce que tout brûle ? Ah, que c'est long !» Des larmes étaient montées aux yeux d'Henriette, comme si son malheur s'était accru encore de ces désastres immenses où avait trempé son frère. Et Jean, qui n'osa ni lui reprendre la main, ni embrasser son ami, partit alors d'un air fou. « Au revoir, à tout à l'heure !» Il ne put revenir que le soir, vers 8 heures, après la nuit tombée. Malgré sa grande inquiétude, il était heureux. Son régiment, qui ne se battait plus, venait de passer en seconde ligne et avait reçu l'ordre de garder le quartier. De sorte que, bivouaquant avec sa compagnie sur la place du Carrousel, il espérait pouvoir monter chaque soir prendre des nouvelles du blessé. Mais il ne revenait pas seul. Un hasard lui avait fait rencontrer l'ancien major du 106e, qu'il amenait dans un coup de désespoir, n'ayant pu trouver un autre médecin, en se disant que tout de même ce terrible homme à la tête de lion était un brave homme. Quand Bouroche, qui ne savait pour quel blessé ce soldat suppliant le dérangeait et qui grognait d'être monté si haut, eut compris qu'il avait sous les yeux un communard, il entra d'abord dans une violente colère. « Tonnerre de Dieu, mais est-ce que vous vous fichez de moi ? Des brigands qui sont là de voler, d'assassiner et d'incendier ? Son affaire est claire à votre bandit, et je me charge de le faire guérir, oui, avec 3 balles dans la tête !» Mais la vue d'Henriette, si pâle dans sa robe noire, avec ses beaux cheveux blonds dénoués, le calma brusquement. « C'est mon frère, monsieur le major, et c'est un de vos soldats de Sedan. » Il ne répondit pas, débanda les plaies, les examina en silence, tira des fioles de sa poche et refit un pansement, en montrant à la jeune femme comment on devait s'y prendre. Puis de sa voix rude, il demanda tout à coup au blessé. « Pourquoi t'es-tu mis du côté des gredins ? Pourquoi as-tu fait une saleté pareille ?» Maurice, les yeux luisants, le regardait depuis qu'il était là, sans ouvrir la bouche. Il répondit ardemment dans sa fièvre. « Parce qu'il y a trop de souffrance, trop d'iniquité et trop de honte. » Alors Bouroche eut un grand geste, comme pour dire qu'on allait loin quand on rentrait dans ces idées-là. Il fut sur le point de parler encore, finit par se taire. Et il partit en ajoutant simplement « Je reviendrai ». Sur le palier, il déclara à Henriette qu'il n'osait répondre de rien. Le poumon était touché sérieusement, une hémorragie pouvait se produire, qui foudroierait le blessé. Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir cet extrait de La Débâcle de Émile Zola que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.